France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Sei pünktlich. Sei pünktlich. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät.
C'est un drôle de métier, agent d'artiste. Si l'on se réfère à l'étymologie, agent voudrait dire ce ou celui qui exerce une action. Quelle action exerce l'agent en ce qui va nous concerner aujourd'hui dans À pleine voix? L'agent de voix, on a le grand plaisir d'accueillir en studio Thérèse Sédel, fondatrice et directrice de l'agence Sédel, extrêmement célèbre agence de voix avec des grandes voix déjà très connues, reconnues, consacrées, et puis de jeunes voix, parce qu'être agent de voix, c'est sans doute cela aussi, accompagner mais trouver. Thérèse.
Je pense effectivement, vous avez raison, c'est essentiel d'accompagner, c'est-à-dire de découvrir quand on a la chance de pouvoir le faire et d'accompagner le plus loin possible et le plus longtemps possible, d'aider, de conseiller si la demande est là, bien sûr, ne pas imposer, quoique parfois ça déborde. Mais non, il faut pas, il faut se battre contre sa
nature.
Contre sa nature, exactement.
Et on va comprendre, effectivement, dans cette heure d'À pleine voix, à quel point aussi vous vous positionnez pour défendre vos artistes bien au-delà, effectivement, de la sphère de la scène, mais que vous voulez les défendre politiquement. Peut-être on pourrait revenir sur cet art du chant, cette passion qui vous habite. Depuis longtemps, vous avez vous-même été chanteuse.
Oui, une espèce de carrière.
Mais vous connaissez la scène.
Oui, je connais la scène.
Pas, ce qui n'est pas anodin quand on est agent.
J'ai eu la chance, de à mon tout petit degré de petite chanteuse que j'étais, de fréquenter d'immenses artistes. Et ça, c'était pour moi essentiel. Et d'approcher, d'être en termes d'amitié avec des gens tout à fait extraordinaires comme Gabriel Lussurgé, comme Jacques Bourgeois, avec lesquels j'étais en termes d'amitié. Gabriel Lussurgé, monsieur Lussurgé,
fondateur du Festival d'Aix,
ayant été essentiel à un tournant de ma vie, étant toute jeune femme, toute jeune. Il a été un peu comme un parrain pour moi dans les décisions que j'ai prises. J'étais admiratrice de la façon dont il menait son festival, voilà. Et la façon dont il parlait de la voix, son enthousiasme, mais pas uniquement sa connaissance, parce que l'enthousiasme tout seul, c'est gentil, mais il faut aussi la connaissance, voilà. Et il y avait aussi des prises de risques qui n'en étaient pas, puisqu'il avait le souci de découvrir des artistes tout jeunes et de les mener, de les manager, de les emmener le plus loin possible. Ça, c'est passionnant, c'est formidable.
Et si nous partions justement à Aix-en-Provence, Thérèse Sédel, pour entendre une de ces voix découvertes par Gabriel Lussurgé, Thérèse Stich-Randall.
Ah oui, avec grand plaisir.
Thank you.
L'air de la comtesse extrait des noces de Figaro de Mozart avec ce Dove Sono superbe de Teresa Stich-Randall. C'était Hans Rosbaud, un chef aussi vraiment incontournable dans la galaxie du
Grande
Surgé.
Classe, grande émotion. Teresa Stich-Randall toujours dans la passion, parfois imparfaite, Dieu merci. Parce que les très très grands, quand ils ont parfois des moments un peu où c'est un peu, voilà, parce que justement ce ne sont pas des machines, elle était bouleversante, elle était entière, passionnée, et c'était une figure incontournable d'Aix-en-Provence bien sûr.
C'est-à-dire que quelque chose se passe aussi autour, parce qu'il y a la scène, on chante soit seul, mais on est, vous parlez souvent des troupes d'ailleurs, des troupes d'opéra qui n'existent plus en France, et c'est bien dommage. Vous avez l'impression de faire une troupe aussi avec votre agence, avec des artistes
époque,
que vous...
Oui, à une certaine époque, plus maintenant. Il y a eu une évolution différente, disons. Les choses ont beaucoup changé en l'espace de 10 ans. Et c'est un peu différent. Il y a une mondialisation, là aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je suis absolument contre les quotas. J'entends parler de tous les faudrait des quotas. Surtout pas. L'art ne peut pas...
Des quotas d'artistes qui voudraient dire d'artistes, que, comme dans d'autres pays, on donne la prime aux chanteurs nationaux.
Ah oui, mais c'est complètement inscrit.
C'est très intégré dans les autres pays.
C'est complètement inscrit dans les autres pays. Le problème est que nous n'avons pas d'autorité dans ce pays assez costaude pour dire aux autres de faire comme nous, c'est-à-dire d'ouvrir davantage leurs frontières. Voilà. Mais il est certain que ces gens-là aussi, ils ont une protection de leurs artistes qui fait que les artistes sont tellement préparés et sur deux, ils ont tellement été entourés, supportés, que c'est plus facile pour eux que pour nos Français. Voilà.
Les artistes que vous suivez, que vous accompagnez, certains d'entre eux ont justement eu l'expérience de la troupe, si on pense à Ludovic Tézier ou à Karine Deshaies.
Oui, Karine également. Oui, je trouve que c'est excellent. Ludovic, d'abord, tout à fait au départ, il était parti à Lucerne, parti par lui-même. Ensuite, je l'avais fait rentrer à l'Opéra Comique. Ensuite, chez Brossmann, le magnifique Jean-Pierre Brossmann.
La troupe de l'Opéra de Lyon,
grâce à lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vous savez, il y avait une espèce d'enthousiasme profond, de créativité, et on invitait les grandes vedettes. Ça n'empêchait pas de faire démarrer des jeunes futurs grands, mais au milieu de gens qui étaient déjà des très grands chanteurs. Monsieur Van Damme était là sans arrêt. Il a fait je ne sais combien de productions à l'époque. Van Damme, c'était, voilà, c'est toujours du reste. Et il est vrai que la troupe apprend le métier d'une façon extrêmement construite. En plus, il y a une espèce de sécurité. Il ne faut pas ronronner au sein d'une troupe, bien sûr, comme beaucoup de troupes d'Allemagne, où vous avez des bons troupiers, mais qui finissent par devenir totalement... la flamme disparaît. Ils sont capables, au pied levé, de chanter n'importe quel rôle.
Une forme de quotidienneté,
du chant. Oui, ça devient des fonctionnaires du chant. Et là, il y a un risque. Il y a un risque, mais certains s'en échappent et font des carrières tout à fait épatantes. Voilà.
Est-ce que Léonie Rizanek faisait partie d'une troupe, je crois, à ses débuts ?
Elle a fait une partie, il me semble, d'une troupe à ses débuts. Oh, Madame Rizanek, très très grand souvenir. Oui, c'est un souvenir sublime. C'était la Salomé à Orange, qui était avec John Vickers en Hérode. C'était géant, c'était extraordinaire, c'était bouleversant, c'est tellement bouleversant. J'avais le plus petit rôle de la distribution, un rôle minuscule.
Vous étiez encore chanteuse à ce moment-là.
Oui, oui. J'avais le plus petit rôle et j'étais tellement bouleversée que j'ai totalement oublié d'aller saluer à la fin du spectacle. Je pleurais en coulisses, tellement d'émotion. Voilà.
Incandescente Léonie Rizanek.
Oui, incandescente.
Dans Salomé de Richard Strauss, effectivement, avec John Vickers, on imagine ces deux géants.
C'était.
Et géants dans le sens
incroyable.
Du mot, parce que Vickers, c'était une espèce de grand escalier.
La femme, man, this vibe, c'était terrible. Il y avait 10 000 personnes qui étaient. C'était inouï, inouï.
Elle représentait un modèle de voix pour vous, Léonie Rizanek. Est-ce que vous aviez Thérèse Edel dans vos premiers pas, et de chanteuse et ensuite d'agent, des espèces de typologies de voix comme ça qui étaient pour vous des horizons à atteindre?
Non, pas vraiment. J'aimais ou je n'aimais pas, voilà, tout simplement. Tout à fait au départ. Hein. Au départ, c'était des coups de cœur plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai appris à reconnaître telle. J'ai rencontré des gens qui m'ont mise sur le bon chemin de l'écoute plus approfondie. Mais ce n'était pas inné totalement en moi au départ. J'étais surtout sur les coups de cœur, amoureuse bien sûr de Maria Callas, comme beaucoup à l'époque, rien d'extraordinaire là-dedans, moins de Tebaldi, et pourtant c'était une immense cantatrice. Mais ensuite, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait entendre des très grands, comme les grands anciens, je dirais. Flagstaff, Lotte Lehmann, dans les Italiens, Bastianini, Simionato, Rosa Poncel, enfin tout. J'ai découvert tout un univers. Et je me rappelle très bien que cette personne qui m'a fait découvrir cet univers m'a dit, tu sais, une fois qu'on a entendu tout cela, on ne peut jamais revenir en arrière. Et on a vis-à-vis de soi-même, bien sûr, mais aussi des autres, si on les accompagne, une exigence. On n'a pas envie de médiocrité. Voilà.
Vous avez souhaité dans la pleine voix qu'on écoute justement un des extraits du cycle Le Chant du Cygne de Schubert, et vous souhaitiez entendre Lotte Lehmann justement dans ce Doppelganger.
Oui. Wenn ich sein Antlitz sehe.
liebe Fleisch, das mich gequält auf dieser Stelle. So manche Nacht in alter Zeit.
Lotte Lehmann, interprétant Der Doppelgänger de Franz Schubert, oui. Thérèse Seidel, oui. Vous commentiez hors micro cet enregistrement. Que
c'est
vous
une évocation, elle plante un décor, c'est comme une pièce de théâtre raccourcie. Elle arrive sur ce lieu, elle reconnaît la maison qui est toujours là. Il y a une espèce de détachement presque indifférent. Et d'un seul coup, elle voit comme un fantôme son double, peut-être elle-même, sait-on, ou quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, là, la passion, tout l'emporte. Et le déchirement, il y a deux parties très nettes dans ce lied. D'ailleurs, le lied bien chanté, une mélodie bien chantée, doit être comme une pièce de théâtre en raccourci. Ça doit évoquer véritablement, ça doit pas être une historiette. Non, voilà, c'est ça, c'est un peu comme ce que faisait Fischer Dischiaro quand il était en super forme et qu'il a toujours été, du reste. Je me rappelle, l'Ironman avec Fischer Dischiaro, on était... Oh, la salle était transportée, voilà. Transportée, c'est pas le mot transportée. Vous savez, c'était cette espèce d'atmosphère où, après la perfection, le public, il y a une espèce d'âme groupe. Personne n'ose applaudir. Et puis, comme je dis toujours, il y a toujours un imbécile qui dit « Bravo !» Et puis tout est foutu.
Oui, mais il y a eu ce moment de suspension qui renvoie à la grâce du moment de musique.
Pardon pour l'imbécile.
On vous pardonne tout, Thérèse Seidel. Lotte Lehmann,
oui.
Vous disiez qu'elle avait cet art comme ça, quelque chose de
brûlant. Un charisme, une science du chant, bien sûr, une immense musicienne. Bon, le mot charisme est tellement galvaudé qu'on n'ose plus le prononcer, mais là... Il est évident.
Vous l'avez entendu ?
Non, jamais. Jamais. Mes parents, oui, mais pas moi.
Thérèse Seidel, si je vous dis justement Kirsten Flagstadt, autre voix du passé, parce qu'on va évidemment parler aussi
des jeunes artistes que
vous suivez et accompagnez, mais Flagstadt est quelqu'un aussi d'important dans votre constellation.
Oui. Alors là, c'est la maîtrise absolue des harmoniques. Un peu comme un Schnabel ou des très grands pianistes, si vous voulez. Et c'est pareil pour un Rostropovitch, pour des gens comme ça, qui arrivent à dépasser leur instrument. La musique redevient tellement simple, un geste simple. Il n'y a rien de plus difficile pour arriver à cela. Et elle, quand elle chante, on entend les harmoniques. Et justement, mon ami Jacques Bourgeois me racontait, parce qu'il l'avait écouté plusieurs fois, il disait que c'était extraordinaire, parce que lorsqu'elle chantait, on ne savait pas d'où le son venait, tellement c'était sur les harmoniques. Le son...
Se diffusait
comme ça. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà.
Kirsten Flagstadt interprétant une mélodie de Sibelius dont il me sera difficile de prononcer le nom, Vardet Endrum.
Oui, c'est ça.
L'opus 37 numéro 4, pour ceux qui veulent se renseigner sur Internet. Thérèse Seidel, cette voix, vous disiez que Jacques Bourgeois, dont
ah,
vous
oui,
disiez qu'elle irradiait en quelque sorte, qu'elle diffusait dans l'espace.
Oui, mais à cause justement de cette question d'harmonique, les harmoniques, voilà.
Vous parlez des harmoniques, ça me fait penser à des artistes dont on a discuté en préparant cette émission. Justement, quelle est la qualité d'émission d'un son, d'une voix? Et vous parlez de Nathalie Dessay, dans sa
totalement,
voix,
totalement.
Qui travaille beaucoup
J'ai un souvenir très net. Donc, c'était à Chicago. Elle chantait Lucia à Chicago. Chicago, c'est une salle immense. Et elle m'avait demandé, pouvez-vous vous mettre au dernier rang pour voir si ça passe? Alors, il y avait tous les agents américains qui étaient au premier rang. Là, vraiment, premier rang, tout le monde se montrait. Moi, j'étais au dernier rang. Et d'un seul coup, elle a commencé à chanter. Et ça passait d'une façon magnifique. La voix n'est pas immense, mais là aussi, c'est sur les harmoniques. Et c'est jamais forcé. Et c'était sublime. Voilà. Je suis désolée, hein, Nathalie, mais c'est comme ça.
Pourquoi? Parce que vous pensez que Nathalie Dessay préférait qu'on passe des enregistrements?
Je ne sais pas. Elle fait des enregistrements superbes en ce moment, de mélodies qui sont magnifiques. Mais après tout, j'ai le droit de dire aussi certaines choses. Voilà.
Dolce Sono, l'air de la scène de la folie de Lucia, extrait de Lucia di la mère morte de Donizetti. Nathalie Dessay était accompagnée par le concerto Köln dirigé par Evelino Pido, un enregistrement de 2007, donc un enregistrement assez récent. Donc pas cet enregistrement de Chicago, la première fois, vous disiez, Thérèse Seidel, en décrivant cette voix de Nathalie Dessay, cette voix au laser qui passe
et avec des salles. Cette harmonique où elle force pas. Où la voix passe avec un naturel. Et pourtant, Nathalie, on a dit, elle a des facilités. C'est une grande, grande travailleuse. Comme tous ceux qui arrivent à faire un très beau chemin, ils font un travail énorme de recherche sur eux-mêmes, sur la voix, d'écoute de tout, et aussi d'être ouvert sur la vie sous toutes ses formes, sur tout le plan musical, écouter les orchestres, que se gorger de musique, les quatuors, etc. Et des autres musiques également, du reste.
Donc des artistes complets, des artistes dont on a pourtant parfois une image fausse hein, de diva, de personnages un peu exceptionnels, hors normes, qui se permettent aussi d'avoir des comportements hors normes. D'abord, est-ce qu'il y a encore des divas?
En fait, oui. Ce n'est pas des divas, ce n'est pas ça. Mais vous savez, ce sont des métiers extraordinairement durs. Il y a des moments où il faut faire un peu craquer les coutures. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, s'appeler diva? Je ne sais pas. Il y a besoin de grandes respirations qui, parfois, sont un peu dans le désordre. Voilà.
C'est joliment dit.
Voilà. Vous savez, j'ai été chanteuse très peu de temps, c'est vrai. Et j'adore les artistes et je comprends les chanteurs. Même les plus enquiquinants, parce qu'il y en a.
On vous la demandera pas.
Et je les comprends. Et c'est pour ça que je suis quelque part un peu un agent double des fois, vous voyez, parce que.
C'est autre définition de l'agent artistique. Agent double. Expliquez-nous.
Non, c'est très. Vraiment difficile, parce que même je n'ai pas dit que les musiciens d'orchestre ou les musiciens, les instrumentistes, bien sûr, tout est très difficile, mais le chanteur, c'est son corps, son instrument, c'est le premier des instruments, finalement.
Bien sûr. Et donc, dans ces cas-là, il faut être compréhensif aussi oui. par rapport à ces oui. carrières si exigeantes, oui. si difficiles.
Absolument.
Et parfois si douloureuses quand, oui. quand la voix ne suit pas. Et dans une vie d'artiste, j'imagine qu'en tant qu'agent...
Cela arrive. Ouais. Cela arrive, il faut rassurer, il faut attendre, et puis il faut laisser l'artiste prendre sa bonne décision. Je ne connais pas un seul artiste, de ceux qui me font l'honneur d'être toujours dans mon agence, qui n'ait pas eu un passage difficile. Il faut être à ce moment-là très présent, dire les choses aussi. Dire les choses. Parce que lorsque quelqu'un est en train visiblement de prendre un mauvais chemin et de se, passez-moi l'expression, de se planter, il faut avoir le courage de lui dire, attention, vous êtes en train de prendre un chemin qui ne va pas.
Les chanteurs que vous accompagnez, que vous suivez, c'est RSDL, vous entretenez quelle relation avec leur coach, leur agent, enfin leur professeur de chant, ceux qui vont
professeur
continuer
de chant,
à...
Moi, j'essaie que ça soit le plus convivial possible.
Par exemple, Karine Deshaies. Qui...
Ah ben je m'entends très très bien avec Myriel Cantara. Je m'entends très bien également avec Lionel Sarraza, qui est un type tout à fait épatant, qui a été... professeur de beaucoup d'artistes qui sont de Philippe Estève, qui a toute une équipe de jeunes chanteurs tout à fait remarquables. On parle maintenant de l'école de Bordeaux. Entre les plus anciens comme la grande Béatrice Uria Monzon qui habite enfin, à côté de Bordeaux, ma grande Béatrice, je dis ma Béatrice, j'exagère.
Magnifique artiste.
Oui, oui, grande. Alors, une artiste, voilà. Je me rappelle de Béatrice... avec l'Orchestre de Paris, dans La mort de Cléopâtre, c'était... Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu Carmen et Carmen encore. Maintenant, elle chante la Tosca, et là, elle chantait du reste avec beaucoup de succès à la Scala de Milan, alors que beaucoup de mauvais oiseaux lui prédisaient une catastrophe. Voilà, parce qu'il y a des mauvais oiseaux aussi. Voilà, des jaloux qui auraient voulu chanter.
La mort de Cléopâtre, cantate d'Hector Berlioz, qu'interprétait Béatrice Uria Monzon avec l'Orchestre National de Lille, dirigé par Jean-Claude Casadesus. Donc pas cet enregistrement que vous évoquiez, oui. RSDL avec l'Orchestre de Paris. Cette artiste que vous avez découverte donc toute jeune.
Ah oui, elle avait 22 ans. 22 ou 23 ans, je ne sais plus, mais enfin il y a un bail.
Donc toute une, comme on pourrait dire, une écurie, c'est pas très joli, mais
oui,
une
mais
équipe en fait de jeunes artistes
oui,
qui ont évolué avec vous.
Oui, oui. Naouri, Laurent Naouri, qui est magnifique. Naouri, parce que on dit, ah oui, il y a Nathalie Dessay, donc il y a Naouri. Absolument pas. Je ne me suis jamais servi de l'un pour faire engager l'autre. Naouri est un immense chanteur, un très grand interprète, qui a eu des triomphes à New York et qui va y retourner, du reste, pour faire l'ouverture du Metropolitan dans un an et demi, dans deux ans, je ne sais plus exactement. Il y retourne maintenant à peu près tous les ans. C'est un grand, grand artiste.
On va écouter artiste. Justement dans un extrait d'Assis et Galatée de Handel, un enregistrement avec le concert d'Astrée. Emmanuel Haïm et Laurent Naouri interprètent Polyphème, un air qu'on écoute au disque.
Precipito nel mar che freme, più corre il fiume che stretto fu. Precipito nel mar che freme, più corre il fiume che stretto fu. Precipito nel mar che freme, più corre il fiume. Corre il fiume che stretto. Corre il fiume, corre il fiume che stretto. Per costume privo di speme, anch'io sdegnoso rendermi più, anch'io sdegnoso rendermi più. O per costume privo di speme, anch'io sdegnoso rendermi più. Nel mar che freme, più corre il fiume che stretto fu. Precipitoso nel mar che freme, più corre il fiume che stretto fu. Precipitoso nel mar che freme, più corre il fiume, più corre il fiume che stretto, corre il fiume che stretto.
Laurent Naouri, qui était accompagné ici par le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm, dans cet enregistrement d'Assis et Galatée de Handel, Thérèse Edel, donc qui est l'agent de Laurent Naouri et qui est notre invité aujourd'hui dans À pleine voix pour France Musique. Laurent Naouri est vraiment un artiste que vous avez connu tout jeune.
Tout jeune.
Donc vous avez suivi tout le parcours.
Tout de suite après Nathalie, puisqu'ils se sont rencontrés il y a quelques années. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien que j'écoute un jeune baryton. Et le jeune baryton en question, c'était Laurent.
C'était déjà son amoureux.
Ça, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. En fait, je pense. Mais c'était très émouvant, voilà. Et puis, il y a eu la découverte de Karine Deshaies, Stéphanie Doustrac, bien sûr. Et Karine, il faut que je rende hommage à quelqu'un qui m'est cher et qui n'est plus là. C'est mon époux, Xavier Tamalé, qui était lui-même un bel artiste. Oui. Et qui avait été convoquée au conservatoire pour écouter du monde, et elle ne faisait que donner la réplique, Karine. Et il a dit, c'est celle-là qui peut rentrer dans l'agence. Il y avait elle et un autre garçon qui s'appelle Le Guérinel.
Ah.
Et Franck Le Guérinel, et ils sont rentrés tous les deux, alors qu'au départ, c'était pas du tout eux qui auraient dû être... pas du tout eux. Et finalement, Dieu sait la carrière que fait Karine, qui a été il y a quelque temps.
Et qui fait Franck Le Guérinel.
Oh, oui, Le Guérinel. C'est Le Guérinel.
Karine, qui a vraiment cette
grande carrière.
Célébrée,
grande carrière.
Consacrée en France, ce qui n'est pas toujours
grand
évident pour
certains artistes.
Grand caractère
aussi, grand caractère que j'aime beaucoup.
Beau caractère, c'est une belle nature.
Beau caractère, une belle nature, une grande franchise, qui des fois, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais ça, alors là, franchement...
Ça lui est égal quand elle chante l'air de Rosine, extrait du Barbier de Séville. Karine Dehaye, accompagnée par l'ensemble Les Forces Majeures, sous la direction de Raphaël Merlin. Mmh. Un disque qui vient tout juste de sortir en avril.
Qui a reçu toutes les nominations. Elle a été nommée artiste de l'année aussi, artiste lyrique de l'année. C'est vrai que j'ai une belle équipe. Voilà. Et les jeunes maintenant aussi, dont on pourrait parler. Les jeunes. Alors, on revient un petit peu aussi sur Stéphanie Doustra, qui a démarré déjà une belle carrière internationale, qui a la beauté de la voix, intelligence vocale, musicienne, actrice, enfin bon, voilà.
Puis, vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Philippe Estève, moi qui j'ai eu la chance de découvrir dans une prochaine production de l'opéra comique pour Fantasio, mise en scène par Thomas Joly. Je l'ai entendu dans un atelier et j'ai trouvé que ce jeune baryton avait un talent formidable.
C'est vrai.
Et vous l'avez rencontré comment? Comment se passe la rencontre?
C'est
avec
le fils de Jean-François Gardeil, qui était baryton à l'agence. C'est l'élève de Lionel Sarrazin.
Oui, d'accord.
Ainsi que le jeune ténor Thomas Bettinger, qui, à mon avis, devrait beaucoup, beaucoup faire parler de lui dans les années futures.
Donc, vous parlez de cette école de Bordeaux en évoquant Lionel Sarrazin. Ça veut
Et
dire
il y a
que...
Maryse Castet aussi, qui est formidable professeur, qui est le professeur du reste d'un autre baryton qui fait carrière maintenant, Florian Sempé, qui n'est pas chez moi. Mais vous savez, ça m'est égal. Je peux aimer des gens qui ne sont pas chez moi.
J'espère,
ça serait horrible.
Peut-être même envier qu'il soit. Voilà.
Oh non, pas envier. Envier, c'est pas mon tempérament du tout. Mais dire là, qu'est-ce que c'est beau, voilà.
Thérèse Edel, quand vous rentrez chez vous, parce que chez vous, c'est autant l'agence, j'imagine que votre maison, c'est souvent comme ça quand on a des métiers de passion. Quand vous rentrez chez vous, ça vous arrive d'écouter les disques de vos artistes ou vous plongez plutôt dans ces voix du passé qui vous ont tellement marqué, parce que comme Flagstadt, comme Lotte Lehmann.
Je vais être très sincère, j'écoute les vieux de la vieille. Pour me redonner à moi une leçon, à moi-même, pour me remettre... parfois les idées en place, puis ne pas oublier, ça c'est une chose que m'avait dit mon époux, Il m'avait dit, fais attention de ne pas juger les jeunes qui arrivent à l'aune de ce que sont devenus des artistes qui sont maintenant arrivés au sommet, ou à l'aune des Flagstaff et compagnie. Juge-les en ton âme et conscience, suivant ce qu'ils sont maintenant, et imagine plutôt le cheminement là où ils peuvent aller. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles.
Renversant Jussi Björling dans cet extrait de Pagliacci de Leon Cavallo, enregistré en 1933, dernier choix de Thérèse Sedel, qui était notre invitée d'À pleine voix, grande agent de voix, agente hein, si on féminise, qui compte dans son agence de bien beaux artistes, Laurent Naouri, Ludovic Tézier, Béatrice Oyamonzon, Franck Ferrari, Jean-Sébastien Bouve, Vincent Le Texier, Mireille Delinge, Karine Day, Stéphanie Toustrac, la relève étant déjà assurée avec la jeune soprano Vanina Santoni ou encore Philippe Estef, jeune baryton qu'on a entendu justement dans un enregistrement live réalisé en 2013 à Agen, dans un extrait du Possente Spirto, cet air d'Orfeo de Claudio Monteverdi, dans une production des Chants de Garonne avec cet arrangement très original pour cordes, guitare et accordéon. Merci à Claire Levasseur qui a mixé cette À pleine voix, réalisé par Christina Amado et préparé par Françoise Monteil. Retrouvez les artistes de Thérèse Sedel sur la page de l'émission, sur francemusique.fr, où vous pourrez également réécouter cette émission ou d'autres, la podcaster, nous écrire, bref. Beaucoup de choses possibles sur francemusique.fr.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.